RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous, Lionel Sabot.
Vers un assouplissement des conditions de vente d'alcool sur le territoire, inutile de vous ruer chez le premier caviste, elles n'entreront en vigueur que lundi. Des actes de vandalisme à répétition ces derniers jours au cimetière du 5e kilomètre. La ville condamne des actes révoltants et en appelle au respect du haut défunt. Monseigneur Sione Poi, le nouvel archevêque de Nouméa, nous a accordé un entretien exclusif. Il veut s'inscrire dans les pas de son prédécesseur. Vous l'entendrez dans quelques instants. Les pompiers du Mont d'Or assurent bien leur mission. Le maire et l'Union des sapeurs-pompiers démentent de fausses informations concernant les soldats du feu de la commune. Et puis le sport et le tennis, coup d'envoi du troisième tour de l'Open d'Australie. Trois Français tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale aujourd'hui. Benjamin Bonzi, Arthur Fils et Hugo Humbert seront sur les courts. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce soir, ce nouvel assouplissement des mesures administratives par le Haut Commissariat. À partir de lundi, les restrictions de vente d'alcool s'appliqueront seulement aux boissons à plus de 24 degrés d'alcool, Charlotte Coulson.
L'achat de boissons de moins de 10 degrés, comme la bière ou le cidre, était jusque-là restreint à 4 litres par jour et par personne. Eh bien, ce ne sera plus le cas dès ce lundi. La vente de boissons entre 10 degrés et 22 degrés, comme le vin, n'était quant à elle déjà plus limitée depuis le mois de décembre. Les restrictions ne concernent donc plus que les alcools forts, comme le whisky, le rhum ou la vodka. Leur achat est toujours limité à 1 litre par jour et par personne. D'autres mesures sont quant à elles reconduites, comme la vente de munitions. Elle est toujours fixée à 50 maximum par mois, sauf pour les tireurs sportifs ou les organismes officiels chargés de la régulation d'espèces envahissantes. Enfin, l'interdiction de rassemblements, manifestations et cortèges est maintenue dans les communes du Grand Nouméa. Toutes ces mesures prennent effet ce lundi 20 janvier et resteront effectives au moins jusqu'au 3 février inclus.
La ville de Nouméa condamne des dégradations au cimetière du 5e kilomètre. Alors que le funérarium et les cimetières avaient été épargnés lors des violences de mai 2024, ils sont depuis peu pris pour cible par des délinquants. Intrusion, dégradation et même un incendie. Alain Bouffnèche est le directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa.
Depuis une semaine, le cimetière est la cible de petites dégradations. Ça passe par des trous dans les clôtures pour pouvoir rejoindre certainement le village des Gaillacs et puis les commerces qui sont à proximité du rond-point Bellevie. On a des tags qui apparaissent, on a des tombes, les vases sont renversés, jetés au sol, etc. Et puis, jeudi dernier, une agent de la ville qui quittait son poste à 15h45, une personne est venue et a essayé de lui voler son sac à main. L'agent a eu les doigts foulés et a été un peu choqué par la situation.
Il y a eu hier l'incendie d'une benne aussi en plein jour.
L'entreprise qui effectue la coupe de l'herbe et le nettoyage des sols dépose sa benne au fond du cimetière vers 16h. Le feu a été mis à cette benne. Les pompiers ont été appelés, sont intervenus immédiatement. Pas de dégâts, mis à part un feu en plein milieu du cimetière quand même, mais ça montre que même dans un cimetière, des dégradations sont commises, alors que c'est peut-être le lieu qui doit être le plus respecté autour de nous.
La mairie de Nouméa a donc pris des mesures pour renforcer la sécurité dans et aux abords des cimetières. On retrouve Alain Bouffnèche.
La police municipale notamment passe déjà régulièrement aux alentours, mais aussi dans le cimetière. Là, les rondes seront renforcées, notamment la nuit. La journée, on a toujours, nous, des agents de service funéraire qui tournent dans le cimetière. Les forces de l'ordre vont renforcer aussi leur présence à l'intérieur du cimetière du 5e et du 4e kilomètre aussi, même si pour le moment, le 4e est assez préservé. Et puis, on a fait le nécessaire pour boucher les trous dans les clôtures qui ont été causés. Alors, en plus, parfois des trous bien propres, coupés avec des cisailles. Et puis, systématiquement, dès qu'on constate que des vases ont été renversés, on prend contact avec la famille de la concession pour qu'elle puisse venir constater et puis déposer plainte si elle le souhaite. En tout cas, on invite à chaque fois les familles à déposer plainte parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état.
Alain Bouffnèche, directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa, joint au téléphone par Nicolas Legrand. Dans un communiqué, la ville de Nouméa condamne donc ces actes révoltants et en appelle au respect dû aux défunts, aux familles, à ce lieu de recueillement qui doit être préservé de tout acte de vandalisme. Mercredi dernier, Monseigneur Susitino Sione Poi est devenu le nouvel archevêque de Nouméa, nommé par Rome. Il va remplacer en avril prochain Mgr Calvet. Mgr Sionepoé était jusqu'à présent évêque de Wallis et Futuna, mais il connaît bien le territoire, Kelinda Boicou.
Il a en effet servi en tant que prêtre à Puebo de 1996 à 2000, puis à Kumak jusqu'en 2006. Il a ensuite rejoint la communauté mariste de Saint-Louis au Mont d'Or, avant d'être ordonné évêque de Wallis et Futuna en 2018. Mgr Sionepoé n'arrive donc pas en terrain inconnu, mais sa nomination reste pour lui une surprise.
C'est une grande surprise, une nomination inattendue pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore dessiné ou je n'ai pas encore approfondi ce que sera l'avenir, la suite de l'avenir de mon épiscopat. Ce qui me revient à cœur, c'est d'être au départ, être à l'écoute des uns des autres. Et je compte beaucoup sur l'expérience, la vie, le partage des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses et des différentes communautés chrétiennes pour qu'ensemble on puisse dessiner ensemble l'Église de demain qui puisse répondre aux attentes des hommes et des femmes de la Nouvelle-Calédonie.
Le nouvel évêque de Nouméa entend s'inscrire dans les pas de Mgr Calvet, qui a assumé cette charge depuis 1981 et qui avait atteint l'âge limite depuis déjà 5 ans.
Je continuerai toujours l'œuvre qui a été déjà commencée, accomplie par mon prédécesseur, Mgr Calvet. Donc je pense qu'il y a déjà mis en place des structures, des différents projets pastoraux que je continuerai. Je pense que le premier objectif, c'est d'arriver à écouter les uns les autres, surtout en ce temps que la Nouvelle-Calédonie est bien éprouvée par ce qui s'est passé. Mon premier objectif, c'est de bâtir ensemble, de définir ensemble l'image, quel genre d'image que l'Église peut se bâtir ensemble, afin de répondre aux attentes de la population, de réaliser l'unité du peuple de Dieu.
Mgr Sionepoé connaît la situation que traverse la Calédonie. Il a en effet adressé son premier message aux Calédoniens.
On tiendra compte de la situation actuelle et de ce qu'on peut faire avec l'ensemble des clergés. Je veux transmettre ici mes meilleurs voeux à toute la Calédonie et surtout en cette année, l'année sainte, l'année jubilaire, qu'on puisse tous ensemble œuvrer pour bâtir une église à l'image de celle que le Christ a fondée et pour pouvoir répondre à la situation, aux défis de l'église d'aujourd'hui, de toute la population de la Nouvelle-Calédonie.
L'installation officielle du nouvel archevêque de Nouméa, Mgr Sionepoé, aura lieu le 12 avril prochain à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Après son installation en avril prochain, il fera le tour des paroisses de Calédonie pour aller à la rencontre de la population calédonienne.
Il est 17h53, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Lionel Sabot.
Le dispositif de chômage partiel spécifique doit être maintenu. C'est la position qu'a défendue le MEDEFNC aujourd'hui au Congrès. Le mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie était auditionné dans le cadre de l'examen de la proposition de délibération relative au chômage partiel spécifique. Ses représentants ont rappelé l'importance de maintenir le chômage partiel pour offrir une visibilité aux employeurs, au moins sur les 6 prochains mois. À terme, c'est le chômage de droit commun à juger insuffisant par le MEDEF. nef qui devrait être réaménagée. À leur demande, les acteurs du monde agricole ont été reçus ce matin par les élus du Congrès réunis en séance plénière. Alors que les financements publics s'épuisent, il s'agissait de leur présenter l'ensemble des filières qui découlent de l'agriculture pour une bonne orientation du soutien financier. Il y a des perspectives d'avenir, nous a dit Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche dans notre journal de 11h30.
Aujourd'hui, l'agriculture et la pêche, c'est 5000 emplois qui sont stables, qui n'ont pas trop souffert de la crise de 2024, malgré que ce ne soit pas très simple. Et nous, on imagine que sur la chaîne de valeur de l'alimentation, on peut créer encore 2000 emplois supplémentaires d'ici 2030-2035 par la transformation, par les cantines scolaires, etc. Donc c'est ce qu'on est venu expliquer ce matin encore aux élus, parce qu'à un moment, il y a des choix stratégiques qui doivent être faits donc, par les décideurs. Et ceux qui affectent les budgets, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos Calédoniens dans une génération. Aujourd'hui, 20% de notre alimentation est produit localement, 80% est importé. Dans les cantines, c'est 12%. Donc il s'agit vraiment d'injecter des fonds publics là où il le faut pour mieux alimenter les Calédoniens.
Et à la fin de cet échange, les élus et responsables du monde agricole ont souhaité la mise en place d'un calendrier.
À court terme, il s'agit de maintenir les 1,7% du budget global de la Nouvelle-Calédonie affecté à l'agriculture et à la pêche. C'est absolument rien. Ça, c'est le point numéro 1 à l'instant T. Et ensuite, mise en place de travaux pour avoir une vision à moyen et long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de variable d'ajustement sur nos secteurs. Il ne doit pas y avoir d'enjeux politiques, politiques-politiciennes. C'est des enjeux qui sont vraiment de politique alimentaire du pays.
Et notez qu'un tiers des élus du Congrès ont assisté ce matin à la commission plénière. Deux rendez-vous politiques dans l'agenda du week-end. L'Union calédonienne réunit demain un comité directeur à Moindou. Les délégués devront notamment préparer le congrès du FLNKS qui se réunit la semaine prochaine et faire le point sur les discussions sur l'avenir prévu à Paris à la fin du mois. De son côté, l'ADUS réunit sa première coordination générale de l'année. Il s'agira là aussi de préparer le prochain congrès du FLNKS.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, seulement 13% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris pour participer aux discussions sur l'avenir annoncé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. 87% pensent qu'elles ne se rendront pas toutes à Paris. Voici notre question du jour. La province sud a-t-elle raison de ne plus prendre en compte les attestations d'hébergement, mais seulement les adresses effectives des parents des élèves de primaire qui font une demande de dérogation scolaire? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. Rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Attention aux affirmations mensongères. L'Union des pompiers calédoniens ainsi que la maire du Mont-d'Or démentent les rumeurs concernant le droit de retrait des pompiers de la commune, Charlotte Coulson.
Cette semaine, un post circule sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Face aux agressions subies lors de leur mission, les pompiers du Mont-d'Or auraient fait valoir leur droit de retrait et se retiraient donc du terrain. En réalité, il n'en est rien. Il s'agit d'une fausse information qui, relayée sur les réseaux, a pris de l'ampleur. Un incident qui a interpellé l'UPC, l'Union des pompiers calédoniens. Comme l'explique l'adjudante Isabelle Marlier, la secrétaire générale de l'UPC, c'est un de leurs postes qui a été repris pour créer la fake news.
Le 4 décembre, le VSAV des pompiers du Mont-d'Or se faisait sauvagement caillasser en intervention avec une victime à bord en traversant Saint-Louis pour aller en direction du Médipôle. Et nous avions tenté d'alerter les forces publiques, mais aussi la population, par le biais du poste Facebook de l'Union des pompiers, pour dénoncer ces faits aussi. Et puis, on avait donc rappelé à l'ensemble de la population qu'il existait le droit de retrait, c'est que si un jour nous nous sentions menacés, en danger de mort, nous étions en droit de l'utiliser. Ça date du 4 décembre. Cette semaine, une page Facebook a utilisé le corps de ce poste, a changé l'intitulé, a changé le titre et a annoncé publiquement, au moyen d'un photomontage entre autres, que les pompiers du Mont-d'Or n'intervenaient plus, ne remplissaient plus leur mission de secours à personne sur Saint-Louis et sur le Mont-d'Or Sud.
Heureusement, l'Union des pompiers calédoniens ainsi que le maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, ont pu être alertés. Le maire a dénoncé ces actes, déclarant, je cite, qu'il est inadmissible que ce type d'affirmation vienne entacher le travail et les efforts de nos soldats du feu. De leur côté, l'Union des pompiers calédoniens tient à rassurer la population. Le droit de retrait ne sera pas exercé. Il prévoit d'ailleurs de porter plainte contre la page ayant relayé cette fausse information. On retrouve l'adjudante Isabelle Marlier.
Il y a une n'y a absolument aucun retrait des pompiers actuellement au Mont-d'Or. Ils continuent à remplir leur mission malgré tout. Ceci dit, le droit de retrait, il existe. Et le jour où on devra l'exercer pour se protéger, pour protéger nos hommes, ce sera quelque chose qui sera annoncé par les voies officielles. Mais ce n'est pas de mise actuellement. Donc il n'y a pas à annoncer ce genre de choses. Bien sûr qu'on va porter plainte. Nous ne pouvons pas accepter que la vérité ou que nos revendications, qui ne sont pas particulièrement politiques, soient détournées de leur utilité, utilisées pour mentir, créer des polémiques et puis surtout pour instaurer la peur chez les gens. C'est absolument pas le but et encore moins le cœur du métier des sapeurs-pompiers.
L'Union des pompiers calédoniens qui rappelle, et nous ne pouvons d'ailleurs qu'approuver ce message, qu'une information, surtout si elle provient des réseaux sociaux, doit être vérifiée, validée par une source fiable avant d'être relayée.
Face à l'épidémie de grippe, adoptons les bons gestes. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie alerte face au risque de propagation de l'épidémie sur le territoire. Il rappelle l'importance de la prévention pour notamment protéger les personnes les plus fragiles et limiter la pression sur les services hospitaliers et sur la médecine de ville. Pour protéger votre santé et surtout celle des autres, portez un masque, lavez-vous régulièrement les mains, limitez les contacts avec les autres, en particulier les personnes vulnérables, et pensez à éternuer et tousser dans un mouchoir à usage unique. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dans un contexte marqué par le manque de professionnels de santé sur le territoire, renouvelle la convention pour la délivrance du diplôme d'état d'infirmier. Une annonce faite cet après-midi par voie de communiqué. Un renouvellement qui vise à garantir la qualité de la formation des infirmiers et à répondre aux besoins croissants du secteur de la santé. C'est une garantie de qualité pour les établissements de santé, mais aussi de sécurité pour les étudiants infirmiers. C'est aussi une sécurité. Ils pourront obtenir à l'issue de leur cursus un diplôme d'état infirmier en adéquation avec les standards de la profession. Chaque début d'année, c'est une tradition à Dimbéa. Le maire, accompagné de plusieurs membres de son équipe municipale, rend visite aux seniors, mais aussi, bien évidemment, au personnel des structures d'accueil, qui sont au nombre de 5 sur la commune de Dimbéa. Il s'agit de maintenir et de favoriser un lien de proximité, mais aussi et surtout d'échanger avec les responsables de ces établissements. Écoutez Yoann Lecourieux.
C'est important de venir rencontrer les responsables qui s'occupent des personnes âgées sur la commune, des différents établissements, pour entendre leurs problématiques actuellement, des problématiques de financement par la Nouvelle-Calédonie et d'autres structures aussi, des retards de paiement qui occasionnent donc des grosses problématiques de trésorerie sur ces établissements et donc sur l'accueil des personnes dont ils sont obligés peut-être de réduire à terme le volume d'accueil. Donc c'est vraiment problématique, même si on voit qu'il y a du personnel motivé qui essaie de maintenir un niveau de qualité dans les prestations proposées aux personnes âgées qui sont accueillies. Vraiment des fois des personnes âgées très fragiles.
Un moment important pour Yoann Lecourieux, un temps d'échange indispensable pour les équipes de l'EHPAD Les Jardins d'Eleusis, situé à Coé et qui accueille 74 personnes âgées. Écoutez Thierry Clavillier, c'est le directeur des Jardins d'Eleusis.
On n'a pas été brûlés comparé aux autres entreprises, que je pense qu'ils étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles. Par contre, on est quand même un établissement de santé qui veut dire très compliqué en termes d'embauche, infirmiers, médecins, soignants. Du coup, ça se ressent aussi sur les résidents, sur les familles, et du coup sur l'entreprise.
Comment est-ce que vos résidents ont vécu la période du mois de mai et des semaines suivantes?
Ils l'ont vécu quand même très très mal. C'est sûr qu'ici, comme je disais, on n'a pas été brûlés, pas trop impactés, parce qu'on est en dehors de tout ce chaos qu'on a eu. Par contre, ne pas voir les familles quand ils sont habitués à les voir tous les jours ou tous les deux jours, ça a été très lourd pour eux. Quand tu es âgé à la retraite, tu aimes bien avoir tes enfants qui viennent te voir et les petits-enfants.
Et ce matin, outre les Jardins d'Eleusis, Yoann Lecourieux a visité la maison de retraite Gabriella à Auteuil et la pension chez Karine, petite structure qui est située à Nondoué. La semaine prochaine, le maire de Dimbéa visitera avec ses équipes l'EHPAD La Cordiline à Neucutacoin et la pension Le Grand Âge à Catiramona. Le SIVM Sud organise demain une journée portes ouvertes dans le nouveau centre de secours de la commune. Le public sera attendu à partir de 9h pour découvrir et partager avec les équipes engagées en tant que volontaires ou professionnels au service de la protection des personnes, des animaux, de l'environnement et des biens. Au programme de la journée, des démonstrations de savoir et de savoir-faire. Les précisions de Brice Régence, c'est le directeur du SIVM Sud.
L'idée de cette journée portes ouvertes, c'est réellement d'être au plus près de la population, à la fois avec les pompiers et puis les méthodes utilisées, l'équipement, le matériel, qu'il s'agisse de lutte contre l'incendie ou de secours à personne, puisqu'on rappelle que les pompiers du SIVM, c'est des interventions du pont de Tontouta jusqu'au Cricams en limite de commune de Bouraille. Et donc des interventions à la fois sur du secours, sur de la lutte contre les feux, sur des actions de prévention. Et c'est tout ça, en réalité, au travers des ateliers, des 2 heures d'atelier du matin et des 2 heures d'atelier de l'après-midi, qu'on proposera au grand public.
Et la journée portes ouvertes du nouveau centre de secours de Bouloupari aura lieu de 9h à 15h demain. Il est 18h05, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, le sport et la météo.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région des Puy-Montcourt, Vanuatu. Toutes les urnes ont été centralisées après le vote d'hier pour renouveler les 52 membres du Parlement. Une nouvelle élection alors que le Vanuatu cherche à mettre un terme à une instabilité institutionnelle récurrente. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Les personnages politiques les plus en vue ne vont pas attendre les résultats officiels du scrutin d'hier pour forger des alliances susceptibles de leur fournir une majorité forte et stable au sein de la nouvelle Assemblée. Il faut dire que jamais tel n'avait été le cas jusqu'à présent au Vanuatu, où il suffisait d'un rien pour que certains parlementaires ou groupes de parlementaires passent d'un camp dans l'autre, avec pour conséquence majeure la chute d'un gouvernement. Les amendements constitutionnels votés l'an passé et sur le point d'entrer en vigueur devraient y apporter partiellement remède. En effet, s'ils n'interdiront toujours pas aux membres d'un groupe parlementaire de passer d'un camp dans l'autre, à condition qu'ils le fassent tous ensemble, les élus dits indépendants ou qui sont les seuls membres de leur parti devront obligatoirement s'affilier à un groupe politique plus important pendant toute la durée de leur mandat. Les législateurs espèrent qu'il en découlera ainsi une plus grande stabilité politique de l'archipel. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On passe au sport avec du tennis et le troisième tour de l'Open d'Australie et 5 Français qui vont tenter de se qualifier pour les 8e de finale, Léo Fichou.
Le Nîmois Benjamin Bonzi sera le premier normalement à jouer ce soir. Il se retrouve pour la 2e fois de sa carrière en 16e de finale du Grand Chelem australien. Il défiera le 24e mondial Jiří Lejeka. La rencontre entre le Français et le Tchèque doit démarrer juste après celle qui oppose Menchik à Davidovich Fokina. Les deux hommes disputent actuellement le 4e set. Notez qu'à partir de 18h30, on suivra aussi un choc 100% tricolore entre les deux meilleurs Français au classement ATP, Hugo Humbert d'un côté, Arthur Fils de l'autre. Arthur Fils qui a déjà hâte d'affronter son compatriote.
Ouais, moi j'ai hâte, voilà, c'est un bon pote, c'est un bon copain, donc ça va être un bon match. Je crois qu'en termes de rencontre, il doit être à 5-1 ou un truc du genre, donc j'y vais, j'ai pas grand chose à perdre, je veux juste faire de mon mieux, m'arracher, et j'espère sortir avec la victoire.
Et le vainqueur de ce duel 100% tricolore affrontera le numéro 2 mondial Alexander Zverev au prochain tour. Demain, la suite des 16e de finale avec deux duels franco-américains. Corentin Moutet face à Lerner Tien et Gaël Monfils contre Taylor Fritz, tête de série numéro 4 du tournoi. La Monf qui s'attend forcément à un match très difficile.
C'est un match très dur, 4e mondial. Il a fait sa première finale de Grand Chelem chez lui. Il est en pleine bourre, donc ça va être un match très dur.
Dans les autres rencontres de ces 16e de finale, l'Italien Jannik Sinner est opposé à un autre Américain, Marcos Giron. Jannik Sinner qui est numéro 1 mondial, on le rappelle. Novak Djokovic affronte le Tchèque Thomas Marach. Enfin, l'Australien Alex de Minaur défiera l'Argentin Francisco Cerundolo. Chez les dames, il n'y a plus de Françaises en lice, mais on suivra notamment la rencontre entre Iga Swiatek et Mara Dukanu, celle entre Elina Svitolina et Jasmine Paolini, ou encore les performances de Naomi Osaka qui joue en ce moment, celle de Coco Gauff et de Jessica Pegula. Notez que les 8e de finale hommes et dames démarreront dimanche.
Allez, on ouvre l'agenda des sports du week-end avec un rendez-vous sur le territoire. C'est demain au Mont d'Or, une compétition d'haltérophilie, Léo.
La Ligue régionale de Nouvelle-Calédonie d'haltérophilie et de musculation organise, oui, demain, la première manche du championnat territorial d'haltérophilie. Les détails de cette compétition avec Kevin. Il est président de la Ligue régionale de Nouvelle-Calédonie d'haltérophilie et de musculation.
C'est ouvert à tous les licenciés détenteurs d'une licence compétition. Tout âge et toute catégorie de poids confondus. Ben, le but demain, pour eux, c'est de réaliser une première manche et de gagner le maximum de points. Et lors de la finale, toutes les manches seront additionnées pour décerner du coup le titre final. Une manche donc samedi 18, une manche le 8 mars et une manche le 13 avril. C'est des échéances qui sont qualificatives et les qualifications elles se jouent par rapport à la catégorie de poids et à l'âge. Et du coup, en fonction du résultat réalisé, il y a des minima qui sont imposés par les fédérations ou par la Ligue. Et si les minima sont atteints sur les trois compétitions qui vont arriver là, eh ben, ils pourront prétendre à une place du coup, voilà, sur des événements tels que les championnats de France ou les Océania ou bien les mini-jeux.
Le championnat territorial d'haltérophilie, c'est donc demain dès 10h30 à l'Institut d'haltérophilie du côté du Mont d'Or.
Allez, direction la métropole à présent avec du football. Après la Coupe de France, cette semaine, place à la 18e journée du championnat de France de Ligue 1.
Et ça commencera demain matin à 5h avec un match des extrêmes, ou presque, entre le 3e Monaco et la lanterne rouge du championnat, Montpellier. Dans la foulée, à 7h05, un choc entre Lille, 5e, et Nice, 4e. Dans la nuit de demain à dimanche, le PSG qui s'est fait peur en Coupe de France contre Espaly, club de National 3, se déplacera sur la pelouse de Lens. Rennes recevra Brest et Lyon accueillera Toulouse. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Nantais d'Antoine Comboiré seront dans le chaudron vert pour affronter Saint-Étienne. Auxerre ira à Angers, Reims recevra Le Havre. Et enfin, lundi matin à 6h45, pour terminer cette 18e journée de Ligue 1, Marseille affrontera Strasbourg.
Du football toujours, mais dans les autres championnats européens.
En Angleterre, d'abord, ça se resserre en haut du classement. Arsenal n'est plus qu'à 4 points du leader Liverpool. Les Reds qui affronteront Brentford demain, alors qu'Arsenal jouera contre Aston Villa dimanche. En Espagne, l'Atlético de Madrid, leader avec un point d'avance sur le Real, se déplacera sur la pelouse de Leganés, pendant que le Real Madrid recevra Las Palmas. Le Barça 3e sera à Retafé. En Italie, deux chocs ce week-end à suivre, la Juventus de Turin contre l'AC Milan et le Napoli sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Et puis on termine en Allemagne, notre tour d'Europe, le Bayern Munich recevra Wolfsburg, le Bayer Leverkusen jouera à Mönchengladbach. De son côté, Dortmund se déplacera sur la pelouse de l'Eintracht Francfort.
On reste sur la scène européenne avec du rugby, cette fois-ci la 4e journée de la Champions Cup.
Le Stade français ouvrira le bal en Afrique du Sud face aux Bulls, alors que le Racing 92 recevra les Stormers, une autre franchise sud-africaine. Après deux défaites consécutives, Clermont doit se rattraper contre Bristol, bon dernier du groupe 2. Le Stade Rochelet affronte Benetton, club de Trévise en Italie. Le Castres Olympique aura fort à faire sur la pelouse des Saracens. Enfin, l'UBB, le Stade Toulousain et Toulon, invaincus après les trois premières rencontres, seront respectivement opposés aux Sharks sud-africains pour l'UBB, aux Anglais de Leicester pour le Stade Toulousain et les Sail Sharks pour Toulon.
Un mot de hand également avec la suite et la fin du premier tour du championnat du monde.
Après deux victoires contre le Qatar, 37-19 en ouverture, puis contre le Koweït, 43-19 ce matin, les Bleus joueront contre l'Autriche dimanche à 4h. Troisième et dernier match de ce premier tour des championnats du monde. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour le prochain tour, mais le vainqueur terminera en tête du groupe.
Et quelques mots de sport d'hiver pour terminer cet agenda sport du week-end.
Depuis mercredi et jusqu'à dimanche, les meilleurs biathlètes de la planète sont en Allemagne, à Rupp Leupolding pour la cinquième étape de la Coupe du Monde. Après les bonnes performances, et très bonnes même performances des Français sur l'individuel, victoire de Loujean Monod chez les dames et deuxième place d'Emilien Claude chez les hommes, place désormais au relais et au Mastart ce week-end. Du côté du ski alpin, pour terminer, les hommes sont en Suisse à Wengen, alors que les femmes sont en Italie à Cortina d'Ampezzo.
Et pour terminer ce journal, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, de la côte est aux Loyautés ainsi que sur le nord-ouest, en deuxième partie de nuit, des nuages porteurs d'averses faibles circuleront. Sur les autres régions, le temps sera sec, sous un ciel souvent voilé. Le vent deviendra généralement variable faible. Les températures minimales seront comprises entre 21 et 26 degrés. Demain matin, les nuages élevés couvriront progressivement tout le territoire. Ils deviendront plus épais et masqueront parfois le soleil. Aux Loyautés, sur la côte est, quelques nuages bas circuleront encore. Le vent soufflera au secteur nord-ouest entre 5 et 10 nœuds. En général, il dépassera localement les 10 nœuds sur la côte nord-ouest, Lionel.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec la rédaction d'Europe 1. 18h30, vous ne manquez pas l'interview d'Europe 1 et Romain Desarbres qui recevra tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Passez un très bon début de soirée, un excellent week-end sur Radio Rythme Bleu.